France Inter.
Pour la première fois dans votre ville, deux magnifiques numéros animaliers, des jongleurs intrépides, des acrobates à grande hauteur, voltigeurs, magiciens, trapézistes, des clowns hilarants et bien d'autres surprises à Priva. Face au pôle santé La Sardane,
salut.
Du samedi 19 avril au dimanche 4 mai.
T'auras peut-être pas le temps d'aller au cirque, hein?
Non, je crois qu'en ce moment, la partie loisirs, elle est un peu mise de côté. Hein. Entre tout le temps qui est pris pour la chambre d'agriculture, sur ma ferme et la famille, il n'y a pas de place pour le reste.
Alors c'est grand, l'Ardèche, la chambre est à Priva. Et toi, tu es paysan?
Je suis paysan sur le nord du département, sur la commune de Pro, c'est à 1h30 de Priva. Donc depuis un mois, je m'y rends presque tous les jours, donc c'est très intense, puisque je garde mon métier de paysan. C'est le principe de chaque élu chambre, on reste paysan à côté. Donc même si on a un engagement, un mandat, on ne peut pas non plus être à 100% en tant que président ou en tant qu'élu. Il faut quand même garder notre activité agricole. Après, évidemment, j'ai des associés, des salariés. Je ne pourrais pas m'absenter en tant qu'éleveur. Je ne pourrais pas partir aussi souvent si j'étais tout seul. J'ai deux associés, Sébastien et Grégoire, et deux salariés, Marine et Constance. On élève des chèvres, des vaches et des cochons. Donc les chèvres pour du lait et une partie en transformation, en fromage Picodon et Caillidou de Saint-Félicien. Des vaches pour du veau de lait. Et des cochons pour transformer en charcuterie. Et on a également un hectare de vignes.
Ok, là, tu as pris ta voiture et tu files à la chambre, quoi.
Ouais. Donc voilà, c'est une belle aventure. On était préparés. On savait qu'on avait une chance de gagner. Donc les candidats sur la liste de la Confédération paysanne qui étaient en poste éligible avaient déjà en tête la possibilité de se retrouver aux manettes de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Donc c'est pas, voilà, c'est une belle surprise, mais c'est pas une surprise non plus inattendue, quoi. C'était quand même possible. On l'avait quand même en tête.
Alors c'est un bâtiment un peu austère, agriculture et territoire, chambre d'Ardèche. Et de l'autre côté, il y a la poste et le Dauphiné libéré, la presse locale. Et Aurélien Mourier a été élu président de la chambre d'agriculture d'Ardèche, Dauphiné libéré, mars 2025. La Confédération paysanne est devenue le syndicat majoritaire de la Chambre d'agriculture d'Ardèche suite aux élections qui se sont tenues en février dernier. Et Aurélien Mourier, donc tête de liste et éleveur à Préau, en est devenu le président espoir pour l'agroécologie en Ardèche. Mais il y a juste quelques jours, la loi Duplon, dite de simplification des pratiques agricoles, ou plutôt agro-industrielles et dévastatrices de la biodiversité, a été votée. Un grand retour en arrière sur les questions environnementales, à la grande satisfaction de la FNSEA et aux grandes dames de la Confédération paysanne. On retrouve Aurélien Mourier dans son bureau fraîchement investi de la Chambre d'agriculture d'Ardèche à Priva.
France Inter. Contre vent. Antoine Chao.
Alors Aurélien, c'est quoi le rôle d'une chambre?
C'est d'accompagner, de former les agriculteurs, mais c'est également aussi faire le lien entre la société et le monde agricole, être un peu le porte-parole départemental de notre agriculture. Et nous, ça, à la Confédération paysanne, on a toujours souhaité qu'il y ait un lien fort, étroit, entre la société civile et les agriculteurs, puisque le corporatisme et le repli sur soi, ça n'a, à notre sens, jamais été une bonne solution. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est de plus en plus isolé, étant donné qu'on est de moins en moins nombreux dans la société. Donc il ne faut absolument pas se couper du reste de la société. On est des paysans, mais on est aussi des citoyens. On n'a pas de difficulté à vouloir porter ce qu'on a toujours revendiqué à la Confédération paysanne de l'Ardèche. Simplement, on ne veut pas que ce soit une chambre d'agriculture au service d'une machine syndicale. Ça n'a pas lieu d'être. Une fois qu'on est élu, on est élu pour tous les agriculteurs et toutes les agricultrices du département. Tous les membres du bureau, donc issus de la Confédération paysanne, ont arrêté leur responsabilité au sein du syndicat. Donc il n'y aura pas une confusion entre le syndicat et la chambre d'agriculture. Donc le syndicat est une très bonne chose, les syndicats sont une très bonne chose pour créer une vision politique, une réflexion collective sur ce qu'on veut pour l'agriculture. Après, par contre, dans ce qui est de la mise en place, quand on est élu à la Chambre d'agriculture, on ne doit pas faire un mélange des genres.
Alors Aurélien, comment s'est passée la campagne? Alors comment vous avez réussi à gagner cette chambre?
Évidemment, on a été élu sur une vision syndicale, une vision politique agricole, et donc on va la porter. Ça fait un moment qu'on est proche des agriculteurs sur notre département, qu'on apporte probablement, en tout cas qu'on portait des réponses qui n'étaient pas apportées par le syndicat majoritaire. On a vraiment mis l'accent sur notre campagne, sur le revenu, puisqu'on est dans les départements de France où il y a le revenu agricole le plus bas. Donc forcément, c'était primordial, nous, si on veut renouveler les générations, si on veut avoir les moyens de s'adapter au réchauffement climatique, s'adapter aux attentes nouvelles des citoyens, s'adapter à un climat parfois géopolitique, économique compliqué. Eh ben, il faut qu'on ait un revenu décent. Et donc, on a vraiment voulu travailler, nous, sur cette question du revenu. Donc, la Confédération paysanne, on porte notamment la question du prix rémunérateur et donc du prix minimum pour nos produits, des prix qui intègrent à la fois nos charges, à la fois notre rémunération et notre couverture sociale, en particulier, par exemple, une retraite décente. Puis, l'agriculture, le foncier agricole, il doit permettre de nourrir la population, toujours dans un cadre de souveraineté alimentaire. Il ne suffit pas d'annoncer des grands mots comme les souverainetés alimentaires si on ne prend pas à bras le corps la défense du foncier agricole sur notre département, qui, je le rappelle, est un département avec une faible capacité de production agricole, puisqu'on n'a que 23% de la surface du département qui est de la surface agricole utile. Par exemple, les chambres d'agriculture devaient se positionner sur des terrains agricoles disponibles, éventuellement disponibles, pour installer du photovoltaïque au sol.
Dans le cadre de la loi d'accélération, c'est ça, des énergies renouvelables.
Exactement. Dans ce cadre-là, face à cette faible proportion de surface agricole, il n'était pas question d'en perdre encore plus. Donc toutes les surfaces agricoles, forestières, et quand je dis agricoles, c'est y compris pastorales, ont été supprimées de cette cartographie pour le développement du photovoltaïque. On a conservé uniquement des sols nus, en fait, où vraiment l'agriculture était impossible. Donc on a quand même identifié environ 200 hectares sur le département, qu'on a fait voter, qui a été voté à l'unanimité en session Chambre d'agriculture. Ça a été vraiment notre premier gros dossier. Et il a été transmis en préfecture. Après, il y aura différents allers-retours. Mais pour nous, c'est très important. On reste vigilant, puisqu'il n'y a pas que le photovoltaïque au sol, il y a aussi l'agrivoltaïsme, où là, il y a une compatibilité possible avec l'agriculture. Mais on souhaite vraiment tirer la sonnette d'alarme pour pas que ça vienne en concurrence avec la production agricole alimentaire.
Et l'important aujourd'hui, Aurélien, c'est de faciliter les installations pour pallier justement au départ en retraite de plus de la moitié des paysannes, paysans, agriculteuristes.
Oui, bien sûr. L'enjeu de cette mandature, mais qui était déjà l'enjeu des précédentes, mais là tout particulièrement, il y a un énorme départ à la retraite d'une proportion très importante du nombre d'actifs agricoles. Et donc, il va vraiment falloir relever ce défi de renouveler les générations. Donc évidemment, ça passe par l'installation, mais en y réfléchissant, en travaillant sur cette thématique là depuis un mois et demi plus profondément en tant qu'élu à la Chambre d'agriculture, on se rend compte que un des principaux enjeux, ça va être la transmission. Puisqu'il y a un gros départ en retraite, il faut qu'on anticipe cette transmission pour que les cédants ils prennent à bras le corps la réflexion de transmettre leur ferme. Parce que et pour pouvoir installer du monde, il faut qu'il y ait de la transmission, quoi. Alors, une des difficultés, c'est le revenu. C'est pour ça qu'on veut travailler sur le revenu, parce que s'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'attractivité. Et si on veut que des candidats à l'installation soient présents dans notre domaine agricole, il faut qu'ils aient la garantie d'avoir des revenus décents. On ne peut pas demander aujourd'hui à n'importe quel candidat de venir faire un métier qui est passionnant, qui est un très beau métier, mais où il faut vraiment s'investir et souvent travailler beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup d'astreintes. Donc si c'est pour une rémunération qui n'est pas à la hauteur, c'est pas entendable.
Et vous avez le souci aussi, Aurélien, de travailler de façon paritaire, hein, c'est ça?
Alors il y avait deux choses qui nous tenaient vraiment à cœur. Pour la constitution de cette liste, c'était évidemment le pluralisme au sein de la Chambre d'agriculture, dans une Chambre d'agriculture qui intègre toutes les tendances, les différentes visions syndicales. On a permis aux syndicats minoritaires d'être présents au bureau. Alors tous n'ont pas accepté, la FDSEA n'a pas accepté cette place au bureau, mais on l'a ouvert à la coordination rurale, un autre syndicat agricole, et à la CFDT, un syndicat de salariés qui est également présent lors des élections chambres. Mais également à la parité, on a travaillé une liste où on était totalement paritaire, c'est-à-dire qu'il y avait un homme, une femme sur l'ensemble des 20 candidats. Et la parité, c'est important puisque la place des femmes en agriculture, elle est primordiale. Elle l'a toujours été. Elles ont parfois eu une place moins visible, mais n'empêche que leur rôle était très important. Et c'est normal de reconnaître cette place des femmes en agriculture, ce qui est peu le cas pour l'instant. Moi, je siège à la Chambre régionale d'agriculture en tant que président de la Chambre de l'Ardèche, et on a un bureau uniquement constituée d'hommes. Il n'y a pas une seule femme au bureau de la Chambre d'agriculture régionale. Donc ça pose question. Et en tout cas, on a essayé, nous, en Ardèche, de contrer cette présence parfois exclusivement masculine.
Avec notamment une secrétaire générale, c'est ça ?
Bien sûr, il y a Lucie qui est secrétaire générale, mais de toute façon, on a cette parité. On a autant de femmes que d'hommes dans le bureau des membres issus de la Confédération paysanne.
Donc, Lucille Faureau, et je suis secrétaire générale. C'est un peu les titres qu'on s'est donnés, enfin, qui sont officiels, mais l'idée, c'est d'être assez nombreux au bureau pour être en binôme sur tous les postes. Voilà, on veut essayer de ne pas être indispensable et que tout le monde puisse se relayer. Et je suis productrice, donc je fais des plants de légumes, des petits fruits, fraises, framboises, groseilles, des châtaignes qu'on transforme en crème, en farine, des céréales qu'on transforme en farine, et des vaches allaitantes. Voilà, on est en GAEC avec mon mari.
Alors c'est une grosse responsabilité hein, de se retrouver à la tête de la chambre d'agriculture.
Et oui, c'est un peu vertigineux au début, mais en tout cas je pense qu'on a bien conscience de la responsabilité qui nous incombe, de se réapproprier un outil qui soit vraiment au service de tout le monde. Là, ce qui est compliqué pour moi pour l'instant, c'est de me rendre compte quelle marge de manœuvre on a par rapport aux décisions qui viennent de l'État, qui viennent de la région. Enfin, on fait partie des chambres régionales, des chambres nationales, etc. Donc, quelle marge de manœuvre on a vraiment pour l'instant? Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas encore vraiment de réponse. Et puis après, sur des décisions vraiment plus locales, on va quand même pouvoir apporter notre vision des choses, de pouvoir défendre des idées qui l'étaient un peu moins, ou en tout cas essayer de le faire différemment et en étant plus inclusif, quoi. J'espère qu'on a une vraie marge de manœuvre. Je pense qu'on va la découvrir petit à petit. Après, on fait quand même passer des délibérations au bureau, des délibérations en session qui remontent au national. Donc voilà, on peut quand même au moins faire entendre notre voix.
France Inter, Antoine Chao, contre vent.
Alors après le président, le directeur de la Chambre d'agriculture d'Ardèche, toi tu diriges cette chambre depuis longtemps, depuis quand et comment ça fonctionne une chambre d'agriculture? C'est une institution, c'est une administration, c'est quoi exactement?
Alors c'est un établissement public sur lequel nous bénéficions des financements des agriculteurs qui permet de conduire des projets de développement agricole. Donc en Ardèche, 3200 agriculteurs soutiennent les activités de l'agriculture. Donc on travaille beaucoup sur des thématiques de production, mais aussi des thématiques liées au changement climatique et à l'installation. C'est un élément important dans l'agriculture ardéchoise. Cet établissement public, on a 70 collaborateurs qui sont au quotidien au contact des agriculteurs pour les aider dans les parties administratives, mais aussi dans les parties stratégiques qui concernent l'évolution de leur exploitation ou l'adaptation de leur système de production.
Alors comment t'as vu évoluer, tu vois, l'agriculture, notamment ici en Ardèche ou en Drôme? T'étais dans la Drôme avant, je crois.
Oui, j'étais en Drôme une trentaine d'années et depuis 4 ans, je suis donc le directeur de cette chambre d'agriculture.
Alors l'Ardèche et la Drôme notamment sont des territoires agricoles particuliers où il y a eu beaucoup de néo-ruraux qui sont arrivés dans les années 70. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a donné quelque chose de spécifique dans l'univers agricole français, on va dire?
Oui, donc l'implantation de ces nouveaux acteurs de l'agriculture ont apporté une diversité, notamment dans leur mode de production et dans leur mode de pensée, de produire différemment et d'avoir un regard plus sur la société, sur le besoin de chacun. Et donc ça a nourri l'évolution de l'agriculture drômoise et ardéchoise. Et notamment, ça a montré qu'il existait d'autres systèmes viables où on pouvait travailler différemment et qui étaient utiles soit au maintien du tissu rural ou soit au développement économique des différents départements dans lesquels j'ai travaillé depuis 30 ans. Mais ces modèles ont subsisté, se sont adaptés et sont devenus maintenant une généralisation et une richesse pour l'agriculture de ces deux départements, mais aussi une richesse pour globalement le tissu rural. Et ces modèles sont tout à fait transmissibles et plus facilement transmissibles et correspondent vraiment à la demande de la société.
Contre vent. Sur France Inter.
En fait, je pense qu'elles sont vraiment là-bas dans les fourrés et qu'on les voit pas.
Elles sont à l'ombre.
Elles mangent et puis après, l'après-midi, une fois qu'elles ont bien mangé, elles ont une période où on dit qu'elles chôment. C'est-à-dire, elles se mettent sous des arbres, elles ruminent, elles font rien. Mais du coup, elles bougent pas et elles font pas de bruit. Donc,
Donc ici, on est à la ferme de la Jaubernie à Coux, à côté de Privas. Donc c'est le centre de l'Ardèche, en fait. On est dans une zone encore assez habitée, une zone périurbaine, et principalement sur des parcours. Donc nous, on nourrit nos chèvres surtout dehors, quoi. Pendant 3 mois, elles sont en parc, et le reste de l'année, on les garde. Une forme de pastoralisme, même si c'est pas une alimentation à 100% pastorale. Mais c'est-à-dire qu'on part avec le troupeau et un chien, et on rentre quand on considère qu'elles ont suffisamment mangé.
Ce matin, il y avait une chèvre qui s'était sauvée, vous la cherchez partout, vous l'avez retrouvée, tout va bien.
Effectivement, là on sort, on laisse les petits sous les mères et on a perdu un chevreau qui est sorti avec elle et qui était trop petit pour pouvoir rentrer.
Vous l'avez retrouvé ou pas?
Eh ben non, on va pas retourner le chercher.
Ouais. Je peux vous aider, hein, j'ai un peu de temps. Alors, Céline et Marceline, hein, vous pouvez me raconter un peu pourquoi et comment vous vous êtes installés ici?
On s'est installés en 2019. On a repris une ferme qui existait déjà. Et avant notre installation, on a fait un stage d'un an, toutes les deux, avec les cédants. À la fois pour nous se connaître, parce qu'on ne se connaissait pas, et voir si on pouvait travailler ensemble. Et aussi pour connaître les cédants, connaître le lieu, parce qu'on n'est pas originaire d'Ardèche, aucune de nous deux. Et pour apprendre aussi le métier et pouvoir ensuite être autonome, quoi. Donc voilà, ça fait maintenant bientôt 8 ans qu'on est là et qu'on travaille ensemble. Et 7 ans, bientôt 7 ans qu'on est installé à notre compte.
Alors est-ce que c'est simple de s'installer aujourd'hui?
Il y a un cadre en fait pour s'installer qui de fait, pas forcément lié à la chambre d'agriculture, est compliqué quand même. En tout cas, beaucoup de démarches administratives. On doit quand même fournir des preuves que sur 4 ans, notre installation va être rentable et qu'on va réussir à se tirer un salaire si on veut toucher les aides à l'installation. Ce qui dans notre cas où en fait on a une exploitation d'élevage avec la transformation fromagère, sans aide, c'est quasiment impossible de s'installer parce qu'il y a énormément d'investissements. Donc le cadre administratif quand même est assez contraignant et assez aussi figé parce que par exemple dans des zones comme chez nous où on a beaucoup de parcours, où on achète beaucoup, on achète de l'alimentation mais on nourrit aussi des chèvres avec de la végétation spontanée. Sur des terrains où on n'a pas toujours des contrats en fait avec les propriétaires de terrain, ça sort du cadre en fait. Et du coup, c'est compliqué de faire rentrer notre projet dans un cadre pour prouver que ça va marcher, quoi.
Et dans le parcours à l'installation, nous quand on s'est installé, du coup, on a monté l'ADR, qui est une structure de développement issue de la Confédération Paysanne et qui accompagne les paysans et les paysannes soit à céder leur ferme, soit à s'installer.
Qui propose un peu toutes les phases liées à l'installation. Donc ça va de sensibiliser des agriculteurs qui sont proches de la retraite, déjà faire un inventaire des agriculteurs proches de la retraite, les sensibiliser à la démarche de transmission, les aider dans ces démarches-là, les mettre en relation potentiellement avec des porteurs de projets. Et puis d'un autre côté, aussi rencontrer les porteurs de projets, affiner leurs projets, voir avec eux est-ce que c'est viable, est-ce que c'est réalisable économiquement, humainement aussi. Et donc voilà, les aider dans ce parcours et ensuite, une fois que le projet est un peu concrétisé, les accompagner en fait dans la constitution du dossier si on demande des subventions à l'installation. Et puis aussi l'accompagnement humain qui va derrière ça. Je pense que c'est ça qui est aussi un plus qu'apporte l'ADR. C'est en plus en fait, de l'accompagnement administratif, il y a aussi l'accompagnement humain. De suivi aussi un petit peu derrière des installations, parce qu'en fait c'est quand même une petite épreuve de s'installer et même de lancer une activité agricole. Et des fois on a des petits coups de mou, et du coup c'est quand même agréable de savoir qu'il y a un interlocuteur qui peut nous aider et qui peut éventuellement nous mettre en relation avec d'autres, avec des pairs, quoi.
On peut dire que je suis partie des NIMA, les non-issus du milieu agricole. Et Marceline, hors cadre, mais dans le cadre quand même.
Ce qu'on appelle les hors-cadres familiales, c'est ça?
Dans le sens où on n'a pas repris la ferme ni des parents de l'une ni des parents de l'autre. Et en fait, à l'époque, l'ADR était quand même pas très visible dans les parcours à l'installation menés par la Chambre d'agriculture quand c'était encore la présidence du syndicat majoritaire. Et ça, on espère que ce soit des choses qui changent. Marceline a fait une intervention dans le cadre d'un des stages obligatoires pour l'installation cette semaine. Et ça, c'est des choses, je pense que petit à petit, on peut amener aussi d'autres discours, notamment prendre en compte un peu les productions dites atypiques, qui ne sont pas les productions principales qu'on peut trouver dans le paysage agricole. Voilà, encourager aussi des installations de femmes ou de femmes qui reprennent seules.
des structures de petite taille aussi, mm-hmm. et très diversifiées, qui du coup, oui, sont pas, sortent un peu des cadres classiques, quoi.
Comment vous avez été accueillie ici sur le territoire ?
Pour ma part, du coup, tu compléteras, mais je me suis sentie bien accueillie. Déjà, Gilles et Véronique Lyon qui nous ont transmis la ferme, ils ont tout un réseau qui nous ont accueillis les bras ouverts. On arrivait aussi dans un territoire où la Confédération Paysanne, elle était assez forte. Il y avait déjà 300 adhérents. Et du coup, c'est un territoire assez dynamique au niveau agricole aussi. On a pas mal d'amis qui sont installés, à qui on peut demander des coups de main si besoin ou des conseils. Voilà, c'est pas un territoire qui est non plus trop galvaudé par le tourisme, dans le sens où c'est un endroit qui vit toute l'année. Et du coup, ça se sent au marché, en fait. Les clients, ils sont très attachés au fromage de chèvre. Enfin, c'est un plaisir de faire les marchés à Privas-Cooks parce qu'on a une clientèle assez fidèle qui est contente de nous retrouver. Ça, c'est plutôt chouette, quoi.
Oui, puis je pense que les cédants, ils avaient aussi quand même bien préparé notre arrivée. Et tout de suite, on a quand même été introduits un peu dans les réseaux. Et puis, c'est vrai que via la Confédération Paysanne aussi, ça fait un réseau où tout de suite, on se sent... encouragé en fait. Je pense qu'on n'est pas les seuls orcades familiales en Ardèche et qu'il y en a quand même peut-être plus que dans d'autres départements. Et du coup, les gens sont aussi habitués quand même à voir des gens qui ne sont pas du territoire, qui viennent s'installer ici et qui les jugent peut-être un peu moins, je ne sais pas.
Mais nous, par exemple, on n'a pas de terre mécanisable. Enfin, on en a très très peu. Et donc, on n'est pas du tout équipé pour produire les fourrages, on les achète. Mais c'est aussi pour ça qu'on touche des aides en fait, au pâturage. Finalement au parcours des aides de la PAC pour compenser le fait que on est dans des terrains tout en pente avec des murs en pierre qui sont assez compliqués à clôturer et qui demandent surtout de la garde et du coup de la présence et du temps de travail.
Il y a une aide qui s'appelle l'ICHN, donc c'est indemnité compensatrice de handicap naturel. Mmh. Donc du coup ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire pour les endroits un peu considérés comme plus difficiles à exploiter. Et donc ça concerne principalement les territoires de montagne, les zones sèches, voilà. Et donc c'est les gens qui sont dans la plaine et qui ont des terres labourables et qui ont que ça, ils ont pas le droit à cette aide-là. Ça c'est l'aide principale quand même qui compense cette difficulté et à laquelle on est très attaché à la Confédération Paysanne. Et pour le coup, celle-là, pour l'instant, n'a pas encore été trop rabotée. Mais voilà.
Il y a eu juste un changement qui fait que Bruxelles demanderait plus d'animaux sur ces terres-là qui sont pourtant peu productives et fragiles. Où là, surtout avec les sécheresses, en fait, la ressource ne renouvelle pas très vite. Donc voilà, il y a eu quand même ce changement-là qui rend un peu plus compliqué l'accès à cette aide.
Mais voilà.
C'est des canards, des oies à côté ?
Des oies.
C'est des oies. Qu'est-ce que ça peut changer alors qu'une chambre d'agriculture passe sous l'égide, entre guillemets, de la Confédération Paysanne, ou en tout cas quitte le giron de la FNSEA ?
En fait, je pense que déjà symboliquement, c'est quand même hyper important, enfin hyper fort, parce que ça prouve aussi que souvent on a une vision de la Confédération Paysanne où c'est que des petites exploitations qui sont pas forcément très rentables, très professionnelles, etc. Et là ça montre en fait que oui, il y a aussi d'autres modèles qui existent et qui peuvent fonctionner. Oui, même symboliquement, la FNSEA peut se faire détrôner en fait, ça peut arriver.
Je pense que ça donne vraiment de l'espoir en tout cas. Concrètement, sur le terrain, la Chambre d'agriculture départementale, elle a quand même un champ d'action où elle peut influencer un peu le paysage agricole. Mmh. Par exemple, sur le type de formation qu'elle propose. Avant, il y avait quand même des formations pour faire poser des panneaux solaires sur nos terres agricoles ou mettre en place des retenues d'eau surdimensionnées. Et du coup, sur ces questions-là, sur l'énergie, sur l'eau, je pense que la Chambre, elle peut influencer un peu... les politiques en fait publiques, qui non seulement les paysans et les paysannes, mais aussi les politiques publiques qui financent ou pas ce type de projet. Après, on a espoir que, comme dit Marceline, que ça donne l'envie aux autres paysans et paysannes d'adhérer à la conf en fait. De se dire qu'on peut faire changer les choses, c'est joyeux quoi.
Et puis qu'on a aussi, on casse un peu ce monopole où toutes les structures finalement sont présidées ou dirigées par des gens de la FNSEA. Et du coup là, peut-être que ça va aussi susciter un vent d'espoir pour s'impliquer, pas forcément à la Chambre, mais dans d'autres structures comme la SAFER, la MSA, les services de remplacement, en fait toutes ces structures parallèles à la Chambre d'agriculture, où finalement, c'était tout le temps des représentants de la FNSEA. Et donc là, peut-être que ça va un peu changer. et donc modifier, comme disait Céline, un peu d'autres choses du paysage agricole.
Ah voilà, alors ça c'est les plus jeunes, c'est ça?
On vient de les sevrer. Elles ont l'âge d'arrêter de boire du lait, parce que nous, du coup, si elles boivent du lait, on fait moins de fromage. Et donc là, on est obligé de les séparer des mères pour qu'elles arrêtent de les téter. Donc là, c'est la période
de sevrage.
Ouais. Le troupeau, c'est combien de bêtes?
On a une soixantaine de chèvres alpines. Après, au niveau national, c'est vraiment assez petit quand même, je pense. Mais il y a pas mal de disparités, j'ai l'impression, dans les effectifs de chèvres dans les élevages. Là, comme c'est de la transformation fromagère, la valeur ajoutée, elle est assez élevée sur le lait. Voilà. Quand on fait que du lait, souvent on a besoin de plus de chèvres pour tirer un revenu. Mais nous, avec 60 chèvres, on se tire les deux revenus et on embauche un temps plein. De mars à mi-septembre, quoi. Voilà.
Alors, elles ont des noms, ces biquettes, ou pas?
On a des lignées, donc il faut qu'on trouve un nom en rapport avec le nom de la mère. Donc on aime beaucoup faire ça.
Là, c'est l'année des A. C'était plus facile que l'année dernière, l'année des V.
Et vous vendrez vos fromages demain?
Ouais.
D'accord, bah, je viendrai acheter du fromage.
Ah bah super.
Okay. Salut.
Bon appétit.
Ah mais si tu repars à Privas à pied, tu prends à gauche.
Et ensuite, là, tu vas arriver à une nouvelle patte d'oie, ou ouais. Soit tu t'engages sur une piste, soit il y a le hameau de la Jauberny. Ouais. Tu traverses le hameau,
ouais,
et il y aura peut-être une meute de petits chiens qui va t'accueillir.
Super.
Et ensuite, tu descends, et là, peut-être tu vas voir les chèvres.
Sur ta gauche.
Vos biquettes, à vous.
Oui, sur ta gauche.
D'accord.
France Inter.
Aujourd'hui, je vais pas pleuvoir.
Antoine Chao.
Vous avez suivi alors? Vous en pensez quoi de la nouvelle chambre?
C'est une bonne chose, il y a des changements. Voilà.
Vous êtes producteur de?
Oui, légumes et produits transformés à la retraite. La retraite étant minime, il me faut faire un peu un plus pour survivre.
Voilà. Et vous étiez syndiqué, vous, au niveau agricole ou pas?
J'étais syndiqué, oui.
D'accord.
Jeune agriculteur au début, et puis FDSEA.
D'accord.
Mais je sympathise beaucoup avec la conf, les amis de la conf. On a la même philosophie, je trouve, en Ardèche. Ouais.
D'accord, donc ça vous semble une bonne chose là, qu'il y ait un changement de majorité et de présidence, quoi?
De personne, oui. C'est bien de changer un peu.
Ah ouais, je fais un reportage sur la chambre d'agriculture. Vous avez, vous, un avis?
Je peux vous poser, non, je n'ai pas d'avis après. Je préfère pas.
Ah ouais.
C'est plus Audrey qu'il faut aller voir.
Audrey, là-bas, d'accord, je vais la voir. Merci.
À votre avis, c'est les vertes ou les autres les meilleurs?
En affaire.
Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors vous êtes productrice de légumes bio, alias, oui, c'est ça. Au marché aujourd'hui, le samedi matin,
voilà,
à Privas.
Oui.
Alors c'est une bonne chose pour vous, vous en pensez quoi?
Eh ben moi, j'attends de voir un petit peu les nouvelles actions qu'il va y avoir. Après, il faut pas, voilà. Enfin, je veux dire, moi j'étais sur la liste adverse.
Ah bon?
J'étais sur la liste de la FEDE, de la FDSEA. Donc voilà, après pour moi, c'est sûr que c'est... Après, moi je suis maraîchère, donc sur une petite surface. Donc je veux dire, voilà, après, moi, pour moi, il n'y aura pas... J'ai envie de dire pas trop d'incidence. Après, en fait, je pense surtout à mes collègues qui sont éleveurs et sur les autres secteurs d'activité agricole.
Je sais pas quoi trop ouais. En penser. Il faut voir dans le temps ce que ça va donner, mais visiblement c'est une équipe qui est dynamique et qui est à l'écoute des gens. Enfin, mais bon, on verra bien quoi.
Ouais.
Voilà. En tout cas, l'agriculteur a besoin d'une grosse mobilisation pour qu'on arrive à gagner notre vie. Voilà.
Alors toi, tu vends du miel, c'est ça?
C'est la miellerie du Chambourlas. Je vends les produits de mes abeilles, donc le miel, le pollen, la propolis et un peu de châtaigne, parce qu'on est en Ardèche, donc on ramasse aussi des châtaignes. Alors moi, c'est quelque chose que j'espérais depuis que je me suis installé. Je partage les idées de la Confédération Paysanne. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'espérais, mais que je n'imaginais pas possible. Donc c'est vraiment chouette que ça ait pu se mettre en place. C'est beaucoup d'espoir. Qu'on puisse du coup mettre en place des idées d'agriculture paysanne, donc une agriculture plus respectueuse de l'environnement à taille humaine. Et ça, c'est quand même des idées fortes. Voilà, c'est chouette de pouvoir les mettre en place, quoi.
T'es confiant un peu pour l'agriculture, la paysannerie ici en Ardèche pour les prochaines années?
Alors en Ardèche, on a quand même un territoire qui est assez diversifié avec plein de petites fermes. Donc je suis très confiant, d'autant plus que la Chambre d'agriculture va pouvoir échanger avec tous ces paysans sur le territoire. Il y a 3 départements en France, hein, je crois, où la Confédération paysanne a été élue. Donc c'est quand même, ça reste quand même très minoritaire, mais c'est plein d'espoir pour l'avenir. Il y en aura d'autres.
Merci. Julien, hein, c'est ça ?
Julien.
Il y a beaucoup de petits producteurs quand même, en tout cas ici sur la place de la mairie, quoi.
Il y en a beaucoup, beaucoup, oui. Nous, c'est un marché qu'on adore parce que c'est vraiment le marché le plus représentatif de l'agriculture ardéchoise. C'est-à-dire plein de petits producteurs et de tout le monde, enfin de plein de productions, c'est vraiment chouette. Je suis Florence Leriche, je suis vigneronne en bio et en biodynamie. Mes vignes sont à Saint-Marcel-l'Ardèche, juste à côté de l'arrivée des gorges de l'Ardèche. Et la cave est à côté de Privas, donc j'ai la chance de vivre dans un département merveilleux et j'ai bien l'intention de continuer et d'œuvrer à ma place pour le rendre tout aussi merveilleux. Je suis pas ardéchoise d'origine, mais je suis tombée en amour avec l'Ardèche et je reste ici. Voilà.
Et tu es vice-présidente de la nouvelle chambre d'agriculture, quoi.
C'est ça, tout à fait. Oui, vice-présidente.
Alors comment ça s'est passé? Tu as fait campagne aussi? Tu étais déjà engagée syndicalement?
Alors, j'étais militante depuis 6-7 ans à peu près. D'abord très sympathisante, puis militante, avec l'aide de plus anciens de la conf. Et puis, oui, j'ai fait campagne avec l'envie de gagner, une forte envie de gagner cette chambre et puis de mettre en place des choses différentes. Je crois qu'il y avait eu tout un travail de fond qui avait été mené depuis des années. Et en fait, il nous restait qu'un tout petit pas à faire. Après tout le travail qui avait été fait avant, et ce petit pas, on a réussi à le faire cette fois-ci, c'est assez génial. Et ça nous permet de travailler maintenant à mettre en place des choses différentes. Pas tout chambouler, pas tout dévaster, pas tout faire table rase du passé, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été construites avec la chambre d'agriculture, mais d'essayer de travailler à avoir une agriculture plus paysanne, des choses plus respectueuses des hommes, du revenu et de l'environnement. Essayer de construire quelque chose, on va dire, certainement pas utopique, parce que très réaliste, mais de revenir un petit peu à quelque chose qui se construit sur le long terme, en fait. Quand on a fait le tour un peu pour les... Y compris, on a fait beaucoup d'appels téléphoniques pour les élections, en plus de toute la présence sur le terrain depuis des années, mais pendant ces appels, il y avait beaucoup d'agriculteurs sur... notamment sur le plateau ardéchois ou sur d'autres endroits, qui nous faisaient vraiment part d'un mal-être et d'un isolement assez profond, de difficultés de revenus, de difficultés par rapport à des attaques, notamment en élevage, sur la viande, sur des choses comme ça. Donc on a réellement un mal-être. Et ça, c'est terrible. Et donc, on a vraiment très, très à cœur d'essayer de travailler sur le revenu agricole, parce que je pense que c'est déjà un premier pilier pour arriver à construire quelque chose après. Et peut-être que les méthodes qu'on nous proposait jusqu'à présent, qui étaient de s'agrandir, de rentrer dans un système agro-industriel ou un système long, où finalement toute la marge allait déporter chez les autres, c'est peut-être pas le système le meilleur, et le meilleur à long terme en plus, parce que souvent il y a des vues très court-termistes. Et en fait, on est en train de brûler la terre sur laquelle on est, de la pomper allègrement sans lui restituer quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il y a des logiques différentes à mettre en place et que toutes ces logiques combinées permettront d'arriver à dégager plus un revenu.
Et Florence, t'es confiante sur le fait de pouvoir changer les choses? Parce qu'on dit quand même que le ministère donc de tutelle, hein, d'agriculture, est un peu sous influence de la FNSEA. Alors est-ce que quand même, localement, vous allez avoir de la marge de manœuvre?
On n'aura pas une immense marge de manœuvre, il faut être réaliste. Mais dans plein d'actions, en fait, on se rend compte, quand on a fait le tour un peu de toutes les actions menées par la Chambre, quand on a eu le droit de faire le tour de toutes les actions menées par la Chambre, parce que ce n'était pas forcément le cas avant, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient, qu'on pouvait réaménager tout légèrement et que ça rentrait bien dans le projet qu'on avait. Donc, au niveau du quotidien, des petits pas, on va pouvoir faire plein de choses.
Dis-moi, Florence, la montée en puissance de la coordination rurale avec les opérations coup de poing, avec le lien qui est tissé avec quand même le RN, hein, faut pas se le cacher, en tout cas dans certains départements, hein, on sait que c'est départemental à chaque fois, mais est-ce que c'est inquiétant quand même dans le monde agricole, pour le monde agricole?
Je vais répondre en deux points. En Ardèche, on a la chance d'avoir une coordination rurale qui est peut-être pas trop infestée, on va dire, par le Rassemblement National. On va pas se retrouver sur tous les sujets, mais sur les sujets, on se retrouve. Après, il est évident que la coordination rurale qui monte dans les campagnes, c'est aussi un signe de la société en entier, hein, enfin, d'une droitisation de la société. Et ça, je suis élue à la Confédération paysanne, je ne peux pas dire que ça m'enchante ni que ça me rassure, ça c'est certain. La seule façon que moi je vois de lutter, c'est de monter des choses au quotidien, de faire des petits pas, d'avancer. Et puis de toute façon, aujourd'hui, c'est la chose qu'on peut faire à notre échelle. Donc faisons-la à fond, parce qu'il est hors de question de laisser ça monter. Et faisons-la intelligemment.
Oui, Florence, avançons intelligemment et c'est pas gagné, d'autant plus depuis la dramatique régression dans le domaine environnemental et écologique suite au passage en force de la loi Duplomb en commission mixte paritaire. Il va falloir rester motivé.
Salut Antoine, c'est Aurélien. Voilà, je te laisse ce petit message pour te dire notre désarroi par rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Comme tu l'as vu, la loi Duplomb a été adoptée. Alors que tout le monde sait qu'on a besoin de prix rémunérateurs, qu'on a besoin d'un encadrement des marges, qu'on a aussi besoin de préserver notre santé et celle de la biodiversité, on vote cette loi qui est rien de tout ça. Bon, en tout cas, n'en déplaise à notre voisin Duplomb. En Ardèche, on continuera de se battre pour qu'on ait tous des revenus décents et puis préserver notre santé. Voilà, merci, bravo pour tout ce que tu fais Antoine et à bientôt en Ardèche. Reviens quand tu veux.
Merci Aurélien Mourier, président, Florence Leriche, vice-présidente, Lucille Faureau-Rostol, secrétaire générale et Olivier Durand, directeur de la Chambre d'agriculture d'Ardèche. Merci aussi à Céline et Marceline de la ferme de la Jobernie à Coux et toutes les mésanges bleues et outardes canepetières qui résistent à contre-vent à l'air du temps mauvais. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Contre-vent avec Charlotte Perry.